Le rendez-vous avec Singapour en France, le festival. Venez découvrir la culture et les arts de Singapour à travers plus de 70 événements. Retrouvez toute la programmation sur singapour-lefestival.com.
Tout de suite, le rendez-vous.
J'ai aperçu en même temps, tout au bout de la plage et très loin de nous, deux Arabes en bleu de chauve qui venaient dans notre direction. J'ai regardé Raymond et m'a dit, c'est lui. Raymond est allé tout droit vers son type. J'ai mal entendu ce qu'il lui a dit, mais l'autre a fait mine de lui donner un coup de tête. Alors Raymond s'est retourné vers moi et m'a dit, tu vas voir ce qu'il va prendre celui-là. Attention Raymond, il a un couteau Raymond.
Eh bien, ce sera physique ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question de sacre, de police, d'état civil, de pas de deux et même d'Alain Bachung avec un hommage à Jean-Claude Galota qui reprend trois pièces emblématiques de son parcours de danseur chorégraphe, mais sur le tard, avec une nouvelle création qui en dit long sur son statut, L'étranger, d'après le roman d'Albert Camus, Émilie Chaudet.
L'occasion pour nous de revenir sur le parcours d'un chorégraphe qui, en presque 40 ans de carrière, remet toujours en question la scène, les gestes et les mots qui les soutiennent.
19h30, place nette à Xavier Delaporte pour sa chronique Place de la Toile. Ce soir, Xavier regarde sa fille dessiner des scènes de jeux vidéo. Passionnant. 19h35, plateau dramaturge avec Sonia Chiambretto qui signe État civil, une écriture théâtrale travaillée sur un mode documentaire placé sous le signe d'un étranger, Walter Benjamin. Émilie Chaudet.
Un titre neutre mais un regard qui peine à le rester, c'est là tout l'enjeu d'une littérature qui questionne jusqu'aux mots eux-mêmes et tente d'inventer d'autres espaces pour les dire.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Zoé Sfez que l'on ouvre sur le son du jour.
Le nazisme a vu le jour ici, à Munich. Nous étions national-socialistes avant beaucoup d'autres villes allemandes. C'est ici que le nazisme a grandi. L'histoire de la société s'entrecroise avec celle de la ville. Et forcément, il est toujours plus difficile de se pencher sur ses problèmes et sur ceux de son père ou de son grand-père.
Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour.
Il est tout frais du matin, vous entendez l'historien Winfried Nerdinger. C'est le directeur du tout nouveau musée et centre de documentation sur l'histoire du national-socialisme, donc du nazisme, qui vient aujourd'hui d'être inauguré dans la ville de Munich, ville berceau du mouvement hitlérien. Une date symbolique puisque c'est l'anniversaire aujourd'hui des 70 ans de la libération. Alors Munich, comme Winfried Nerdinger l'évoquait dans ce son, a mis beaucoup, beaucoup de temps à se confronter à son passé, puisque ce projet de centre de documentation existe depuis très longtemps et qu'il a toujours été reporté. Il se situe sur le site de l'ancien QG du parti nazi à Munich. L'exposition permanente est sur 4 niveaux. Elle reviendra sur la montée en puissance du mouvement hitlérien dans cette ville traditionnellement tolérante et aussi sur la répression de la résistance. Monsieur Nerdinger a intentionnellement refusé d'exposer par exemple des uniformes nazis ou des étendards géants avec la croix gammée afin d'éviter toute mise en valeur de l'esthétique nazie.
Et tout de suite Zoé, on passe au dossier du jour. Ce week-end du 1er mai va être marqué par la journée mondiale de la liberté de la presse, une journée créée par l'organisation Reporters sans frontières qui fête cette année ses 30 ans avec un grand concert gratuit Place de la République à Paris. La liberté de la presse qui connaît une année particulièrement noire.
Oui, et d'ailleurs de ce point de vue, les attaques contre la liberté de la presse ont beaucoup marqué l'inconscient collectif aujourd'hui cette année, entre les exécutions extrêmement violentes des journalistes par l'État islamique en Syrie et en Syrie, et évidemment avec le drame de Charlie Hebdo ce week-end. Le week-end du 1er mai a déjà démarré ce jeudi par un hommage à l'économiste et chroniqueur Bernard Maris qui a été tué justement dans l'hebdomadaire. Alors, il faut le dire, Reporters sans frontières n'est pas la seule à le signaler. Cet anniversaire résonne particulièrement étrangement puisqu'aujourd'hui l'association américaine Freedom House publie son rapport sur l'année 2014 et indique que la liberté de la presse a atteint un niveau le plus bas depuis 10 ans. Cette liberté de la presse puisqu'elle est notamment amputée par des législations sécuritaires, de l'intimidation, de l'ingérence de propriétaires des médias, parce qu'en plus, il faut le dire, des méthodes traditionnelles de répression de la liberté de la presse, le journalisme indépendant est de plus en plus victime d'un certain soft power exercé par les grandes semons, comme l'explique Christophe Deloire, directeur général de RSF.
Il y a toujours, et même d'une certaine manière c'est de plus en plus violent, une violence débridée contre les journalistes. Des journalistes tués, plus de 700 tués dans l'exercice de leur fonction en 10 ans. Des journalistes en prison, plus de 150 aujourd'hui. Gao Yu, il y a quelques jours, cette journaliste sexagénaire chinoise condamné à 7 ans de prison. Raif Badawi, ce blogueur saoudien condamné à 1000 coups de fouet et dont la peine a été suspendue après 50 coups de fouet. Ou le Syrien Mazen Darwish, créateur du Centre syrien des médias, qui est toujours en prison. Mais il y a des nouveaux modes de contrôle de l'information pour empêcher les journalistes indépendants de travailler, mais aussi parfois des pressions économiques. Je pense à des pays comme l'Azerbaïdjan, des modes technologiques à travers la surveillance, à travers la mise en place de grandes murailles technologiques pour priver certaines populations d'une partie de la réalité.
Reporters sans frontières a d'ailleurs lancé une collatéral freedom pour que des sites d'information indépendante soient visibles dans plusieurs pays qui appliquent une forte censure numérique.
Effectivement, ça consistait à recréer des sites miroirs de sites d'information indépendante interdits, par exemple en Chine, au Tibet ou dans plusieurs pays arabes, en les faisant héberger par des grosses plateformes comme Amazon, ce qui les rend quasiment impossibles à bloquer par la cybercensure. Ça a été un énorme succès, car avec les mutations numériques de ces dernières années, il y a aussi de nouvelles menaces qui apparaissent, non seulement cette forte cybercensure, et puis de l'autre côté, on a deux nombreuses vidéos de l'État islamique, on l'a bien vu, des moyens de propagande qui eux aussi sont démultipliés, comme l'explique Christophe Deloire.
Il y a une espèce de mondialisation des enjeux liés à la liberté de l'information, une mondialisation de la propagande. On entre dans une nouvelle ère. Chaque groupe radical, chaque État, chaque pouvoir politique, économique, religieux peut aujourd'hui, grâce aux facilités technologiques, diffuser sa propagande à l'extérieur des frontières, diffuser son information sponsorisée par l'intérêt sous la dictée, au-delà même des frontières habituelles. On est dans une période, dans une nouvelle ère de la propagande, où il y a un très grand conflit qui est en train de se jouer entre la communication en général et de l'autre côté, l'information indépendante, c'est-à-dire collectée, diffusée avec méthode, avec des règles d'honnêteté, d'éthique. Malheureusement, l'information sous la dictée, elle a plus de moyens aujourd'hui et moins de scrupules que l'information indépendante.
Voilà, alors RSF profite justement de cet anniversaire pour demander au Conseil de sécurité de l'ONU de saisir la Cour pénale internationale pour les exactions commises contre les journalistes en Irak et en Syrie, les journalistes étrangers, mais surtout les journalistes locaux, dont on parle parfois moins. Le concert de la Place de la République, lui, réunira de nombreux artistes, Jeanne Chéral, Arthur Ashe, etc., le prix Nobel de la paix, Shirin Ebadi, et de nombreux journalistes comme Evie Plenel ou encore Raphaël Baquet.
Peut-être une réaction de votre part, Jean-Claude Galota, chorégraphe?
Oui, je trouve que ça devient terrible, et je vois même chez les artistes, il y a cette même propagande. On nous demande de faire certaines choses, pas d'autres. Des directeurs qui nous conseillent. Donc je trouve qu'il y a une sorte de tension de plus en plus grande.
À titre personnel, vous avez vécu justement quelques réactions, on va dire?
Oui, de ne pas faire tel geste parce qu'il était dangereux.
Mal interprété?
Mal interprété.
Quel genre de geste?
D'écarter les jambes sur le sol. Et c'est toute une pédagogie parce qu'on va aussi dans les quartiers qu'on dit défavorisé, où justement le communautarisme commence à grandir. Nos relais ne sont plus les mêmes. Ouais. Et donc, il faut se battre pour expliquer. Alors, moi, j'y vais. J'essaye, je discute, je fais ce qu'on me dit, même si c'est une sorte de censure. Mais ça me permet de pénétrer ces lieux et puis d'aller discuter ensuite pour essayer de voir comment on peut faire bouger les choses.
Je rappelle que vous travaillez à Grenoble.
Oui.
Dans ce cadre-là. Tout de suite, on continue avec les brèves.
Et oui, et l'on ouvre avec le prix Landerneau du Polar qui a été attribué aujourd'hui à Fred Vargas pour son roman Les Temps glaciaires, paru chez Flammarion. On le retrouve, ces personnages bien connus, enquêteurs de la brigade criminelle du 18e arrondissement de Paris, confrontés cette fois-ci à un double suicide.
Le musée d'art de la Bible ferme ses portes à New York.
On l'appelait le MOBIA, il a pour mission d'examiner dans une perspective laïque l'influence de la Bible sur l'art. Le MOBIA n'a pas des collections permanentes, mais il montait 3 grandes expos par an. Il occupait un grand espace à Broadway depuis 2005, mais l'association qui le gère n'a plus les moyens de payer ce loyer très élevé, et ce, alors qu'il ne cessait de gagner des visiteurs.
Fleur Pellerin signe un 6e pacte culturel avec la ville de Bourges.
Après Cambrai, Clermont-Ferrand, Strasbourg, Poitiers, Toulon, Provence, Méditerranée, ici c'est à Bourges, donc à la suite de la fin du fameux printemps, qu'a été signé le 6e pacte culturel. D'ici la fin du mois de mai, la ministre promet qu'il y en aura à 40 autres. Je rappelle le principe, la ministre de la Culture s'engage à accompagner budgétairement une ville pendant 3 ans si la ville n'accepte de ne pas couper dans le budget de la culture.
La dernière,
c'est une petite histoire que j'adresse à certaines femmes, une histoire qui ravira toutes les dames qui, comme moi, peut-être ont été élevées avec les romans de Jane Austen, ou comment on a peut-être retrouvé le héros le plus adulé de la littérature anglaise. Si je vous dis Jane Austen, Orgueil et Préjugés, beau héros, sombre et amoureux, vous me répondez quoi? Vous me répondez rien.
Non, parce Darcy, qu'on vous regarde. Et Darcy, dans les yeux. C'est difficile, d'ailleurs.
Le charmant Darcy, voilà, ce héros qui a séduit Elizabeth Bennet dans Orgueil et Préjugés, qui fait l'objet, on peut le dire, d'un véritable culte en Grande-Bretagne, puisqu'il a été incarné en 95 par Colin Firth dans une célèbre adaptation de la BBC, que personnellement j'ai vu une bonne centaine de fois. Eh bien, cet homme-là, il a toujours fasciné, mais on n'a jamais su quel était le personnage qu'il avait vraiment inspiré, alors qu'on sait que Jane Austen utilisait toujours des personnages réels comme Cadva pour ses personnages. Eh bien, Révolution, dont vous fichez certainement, il est une historienne britannique qui a découvert son identité dans son livre À travers la serrure. Elle affirme qu'il s'agit en réalité de John Parker, premier comte de Morlaix, un jeune homme qui a été marié à une amie de Jane Austen. D'ailleurs, Jane Austen était chez eux au moment où elle a commencé le roman. Les ressemblances physiques de Darcy et de son double dans la vraie vie sont évidentes, dit-elle, puisqu'elle a rassemblé des notes, des portraits. Le comte était grand, brun, beau, un peu maussade, comme notre fameux héros. Il y a une photo de lui de 1805, une photo de lui, non, un portrait de lui, pour une dépêche qui n'est pas bonne, de 1805, dans un uniforme de la milice, d'une autre dans une bibliothèque, et je cite, il a l'air très intense, dit-elle. Voilà, alors ça a mis complètement en émoi toutes les fans de Jane Austen. On peut se lancer dans le débat.
D'autres réactions à ce que l'on vient d'entendre ? Non, ils se regardent. Eh bien, on commence tout de suite.
Le rendez-vous.
Plateau sacre avec vous, Jean-Claude Galota, danseur chorégraphe, figure emblématique de la danse d'auteur française des années 80, toujours directeur du Centre chorégraphique national de Grenoble, un poste que vous occupez depuis 1984. À cette époque d'ailleurs, en 84, ou disons au début des années 80, quelle était l'idée de la danse que vous défendiez, alors même que la danse arrive tard dans votre parcours, en tout cas pas avant l'âge de 20 ans?
Oui, une danse différente, on va dire, une danse d'auteur, libre. Avec toutes les possibilités, c'est-à-dire les corps différents, gros, maigres, âgés, très jeunes, même des enfants, influencé par le cinéma italien, néo-réaliste, c'est-à-dire qu'on peut faire jouer à la fois des acteurs ou des danseurs professionnels, mais aussi des amateurs, et puis d'essayer de faire des récits, au fond, comme un film ou un roman, pas simplement des bouts de danse, mais raconter pendant une heure et demie un voyage avec le spectateur.
Ce cinéma donc de la comédie italienne, c'est le cinéma qui a bercé votre enfance, le cinéma qui vous a fondé.
Oui, exactement. Mes parents étaient italiens, ils aimaient voir ça. D'ailleurs, on y reviendra aussi avec L'étranger, parce que il y a aussi une suite. Et ça a été vraiment pour moi une révélation. Je me dis tiens, voilà, pour moi l'art c'est ça, c'est ce mélange de genres très humain. Voilà, il y a cette humanité aussi que j'essaye de reproduire aussi dans les spectacles.
Alors ça, c'était dans les années 80, mais ça n'a pas véritablement changé au fil des années. Vous reprenez aujourd'hui trois de vos créations. Ivan Vafan, qui avait été créé en 84, Blic, une pièce de 2001, et puis votre Sacre du printemps de 2012. On entend la musique de Stravinsky derrière nous. Ce sera à partir du 5 mai prochain. C'est dans le cadre d'un hommage qui vous est consacré à Angers par le Centre National de Danse Contemporaine. Et puis du 9 au 20 juin, vous présenterez votre nouvelle création, L'étranger, à partir du roman d'Albert Camus. D'abord, un mot sur le Sacre et sur la musique de Stravinsky. Le Sacre, qui est une figure imposé, on va dire, dans le parcours des chorégraphes depuis la version de Nijinsky. Il y avait eu Pina Bausch, Béjart, Prejlocas, Jérôme Bell, enfin il y en a eu plein. Le vôtre arrive, comme toujours chez vous, assez tard, en 2012. Vous ne vous sentiez pas prêt ?
Non, et j'avais envie de le faire, hein, c'est vrai, mais plus comme un challenge, comme ça. Et puis je voyais les répétitions et les danses de L'homme à tête de chou.
Oui. Le spectacle que vous aviez monté sur une musique d'Alain Bachung.
Voilà, et du coup, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire après ? Et en voyant cette énergie-là, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose du Sacre du printemps dans ce que je voyais, comme
en
une
quoi
intuition. Ben, je pense l'énergie de groupe, les personnages de Gainsbourg, le fait aussi que Gainsbourg aimait Stravinsky, enfin, et certaines musiques classiques, le fait d'avoir une musique existante, puisque là c'était aussi une musique imposée, hein, celle de Gainsbourg, je me suis dit tiens, peut-être je suis prêt à flirter avec...
C'est donc la variété française, Gainsbourg et Bachoun qui vous amènent vers le sacre.
Oui.
Quels sont les sacres qui ont pu vous marquer comme spectateur, alors même que vous êtes danseur et chorégraphe ?
Alors, j'ai pas vu celui de Béjar en vrai, comme on dit, je l'ai vu en film. Pinabao, je l'ai vu à l'opéra. Oui, puis j'avais vu un de Matzek qui était étrange, puisqu'il était solo, c'est un solo. Voilà.
Et vous, Sonia Chiambretto, est-ce qu'il y a des sacres qui vous ont marqué? Puisque je sais que vous êtes spectatrice de danse, puisque vous collaborez avec des chorégraphes, on en parlera tout à l'heure. Est-ce que c'est un exercice que vous connaissez, le sacre du printemps?
Oui, je connais, mais je ne suis pas du tout...
Un petit peu étrangère à cela.
Non, oui, non, c'est pas que je suis étrangère à ça, mais en réalité, j'ai écrit étrangère. Pour la danse.
Oui.
Voilà, étrangère. J'ai écrit pour la danse, mais je n'ai pas des grandes connaissances de ce que c'est la danse. Je suis pas une spécialiste. Voilà.
Non, c'est la danse qui est plutôt venue vers vous.
Oui, c'est la danse qui est venue vers moi. J'aime la danse. J'aurais aimé être danseuse, mais je n'ai pas. Je connais des classiques. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est ce spectacle et j'aimerais le voir. D'ailleurs, des amis m'ont raconté, l'ont vu et m'ont raconté cette pièce. Mais la pièce
de Jean-Claude Galota.
Mais par contre, je ne suis pas une spécialiste. Ouais.
Mais on ne va pas vous coincer, ne vous inquiétez pas.
Non.
Émilie Chaudet. Je me
coince toute seule.
On vient de l'entendre, Jean-Claude Galota, chacun a sa vision du sacre. Le vôtre a découlé de ce que vous aviez vu chez L'homme à la tête de chou. Il y a eu aussi celui déconstruit de Jérôme Bell, celui avec l'élu unique et violenté chez Pina Bausch. Le vôtre donc présente 13 danseurs, des hommes et des femmes, pas d'élus. Et ce personnage doit se sacrifier pour que vive le printemps, donc n'existe pas. Le groupe reste uni, les femmes ne sont pas les victimes des hommes, mais leurs égales. Qu'est-ce que ce sacre dit de votre vision de la danse ?
Oui, la vision de la danse, c'est une sorte de démocratie. C'est-à-dire que chacun a un rôle à un moment donné, comme toujours dans mes pièces. Et puis là, par rapport au sacre, c'était intéressant parce que c'était la musique qui m'inspirait. C'est-à-dire le rythme musical. J'ai essayé de faire un peu ce que j'avais dit avec Bachung, c'est-à-dire de rendre par l'œil ce que j'entendais, en fait. C'était la connexion oreille et œil. Donc c'était vraiment ça le point de tension avec la musique. Et puis aussi, moi qui viens d'un espace cunningamien, c'est-à-dire où on est libéré de la musique.
Merce Cunningham, donc chorégraphe américain, qui composait ses partitions chorégraphiques d'un côté, pendant que John Cage composait ses musiques de l'autre. Et puis, le moment du spectacle était la rencontre des deux.
Voilà, très bien. et donc, j'ai écouté le sacre. Ensuite, j'ai travaillé toutes les danses sans musique, sans écouter la musique. Et ensuite, on a mis la musique sur cette danse. Et on a vu, quand c'était trop éloigné, je me rapprochais un peu de la musique. Et quand c'était trop près de la musique, j'éloignais un peu pour garder justement cette confrontation.
Et justement, sur quelle partition de la musique d'Igor Stravinsky vous avez travaillé, vous? Sur quelle interprétation?
Sur celle d'Igor Stravinsky.
Mais sur quelle
interprétation?
C'est lui qui dirigeait.
Oui, mais...
Interprété
par quel musicien?
Non, mais par celle de Stravinsky.
Stravinsky qui a enregistré, en fait.
D'accord, sur l'original.
Oui.
D'accord.
Et dans les années 60, en fait, il avait envie de diriger tous ses ballets. Il avait certainement envie de le faire et de donner son tempo. Et moi, j'ai écouté ça et c'est pas du tout vieillot. Au contraire, c'est une musique très rapide. C'est la plus rapide, en fait, des sacres. Et j'étais pas sûr qu'elle soit dite bonne par les spécialistes de la musique. Mais ce qui m'intéressait, c'était de l'entendre lui, puisque je rendais hommage à Stravinsky. Très souvent, les chorégraphes, parce que le sacre dure 40 minutes, mettent d'autres chorégraphies avant. Et moi, je trouvais que ça cassait un peu le sacre du printemps. Donc, c'est vraiment un voyage autour du sacre. C'est-à-dire qu'au début du spectacle, les spectateurs voient toutes les danses dans le silence qui vont servir au sacre du printemps.
Et vous avez mis des silences d'ailleurs dans celles que vous avez fait au Palais de Chaillot.
Oui.
Il y a deux silences.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je laisse entre la première et la deuxième partie glisser comme du vent. Et puis on voit le duo qui commence. Et puis la musique arrive à ce moment-là. Donc c'était pour moi vraiment un hommage à Stravinsky, donc il fallait qu'on l'entende lui.
Et manifestement aussi à Cunningham, s'il y a un décalage entre la musique et la composition chorégraphique. Quand vous êtes allé voir Cunningham, donc j'imagine dans les années 80, qu'est-ce que vous recherchiez auprès de lui? Est-ce que vous avez des souvenirs, des cours que vous avez pris avec lui?
Oui, c'était je trouvais que c'était celui qui pensait la danse. Ouais. Donc, et même si j'aimais pas tout ce que je voyais, en fait, il me donnait envie de créer. C'est comme chez Godard, c'est-à-dire des fois on n'aime pas forcément le film, mais la façon dont c'est construit, finalement, ça nous booste pour faire des choses. On a envie de faire. Donc c'est ça que je voulais connaître, et puis aussi son style. Sa technique.
Très technique, en fait.
Oui, très technique.
C'était facile pour vous, alors même que vous êtes arrivé tard à la danse?
Non, c'était pas facile.
Je peux imaginer, ouais.
Mais comme il faisait aussi des events, il faisait aussi des choses dans les musées, où il introduisait aussi parfois le geste quotidien, parce que il y a eu deux périodes de Cunningham. Il y a eu une période, en fait, où il a été très inventif, comme ça, sur tous les gestes. D'ailleurs, lui, comme il dansait comme un félin, qu'on reverra pas dans ses chorégraphies, en fait. Il y avait une différence entre le chorégraphe qui construit et celui qui danse. Et ensuite, il est devenu beaucoup plus académique parce qu'il avait besoin de transmettre. Et c'est vrai, tous les chorégraphes le ressentent. Quand on improvise, c'est très facile. Mais quand il faut transmettre, il faut commencer à construire. Et là, forcément, on s'académise un peu.
À quel moment, vous avez arrêté d'être sur le plateau?
En fait, j'y suis encore.
Je sais.
Donc, je fais des allers-retours. J'ai commencé parce qu'il manquait un danseur. Donc, je n'avais pas l'argent pour payer un danseur. Donc, je me payais
80,
comme danseur.
Hein.
Alors, j'étais toujours décalé. Et du coup, ça m'a créé ce rôle un peu de personnage un peu drôle, comme ça, un peu lunaire, un peu décalé. Après, j'en ai un peu joué, j'ai joué avec ça. Et puis, après, j'aimais bien voir les chorégraphies, pas être dedans. C'est plus facile pour moi de chorégraphier, de mettre en scène. Et puis, de temps en temps, j'y retourne.
Quel lien on peut faire entre ce sacre, donc, que vous venez de signer, et puis votre pièce Ivan Vafan, qui est une pièce des années 80, qui mettait en scène à l'époque un personnage. C'était la grande époque où vous mettiez en scène des personnages, des grands récits. C'était un personnage de chorégraphe fictif.
Oui.
Quelle était son ambition à ce chorégraphe fictif et quel lien aujourd'hui avec le sacre?
Alors, pour dire aussi, c'est que très souvent, pour faire admettre la danse contemporaine, je donnais des fausses pistes. Donc, je racontais des récits. Et puis, souvent, les théâtres nous demandent des programmes. Donc, on doit donner un titre, on doit inventer une histoire. Et donc, ça permettait de rêver, au fond. Donc, j'avais imaginé que c'était un danseur chorégraphe à Istanbul qui avait trouvé l'amour par le pas de deux et puis qui avait créé une religion et puis on l'avait plus revu. Voilà, ça suffisait, en fait, pour faire partir l'imaginaire. Mais, en fait, dans le ballet, il y a... rien du tout de tout ça. C'est simplement... En fait, on pourrait couper le son et puis mettre la musique du sacre et on aurait de temps en temps des mêmes valeurs, au fond. Parce que c'est le style qui fait, finalement, la dramaturgie.
Vous parliez de transmission tout à l'heure. Dans le cadre de cet hommage qui est organisé à Angers, ce sont des étudiants du CNDC d'Angers qui vont reprendre Blic autour de moi. Quelles pistes de travail vous leur avez donné? Quels conseils?
Alors, c'était d'abord d'apprendre, donc d'avoir une certaine discipline, et puis ensuite, au contraire, de se libérer de cette discipline. Je leur disais, il faut être passionné et détaché. Donc, comme ça, ça leur donne une direction. J'ai choisi différentes choses à faire, c'est-à-dire des choses rythmées, des choses lentes, pour qu'ils aient un peu un vocabulaire beaucoup plus large, et surtout qu'ils se regardent. Parce que très souvent en danse, on ne se regarde pas, on fait ce qu'on a à faire, un peu comme des sportifs, et donc on oublie un peu son compagnon. Voilà. Et donc du coup, j'ai essayé d'apprendre à se regarder, à s'écouter, et du coup les mouvements, ils sont beaucoup plus ensemble en fait, parce que tout à coup, il y a une complicité qui se crée entre eux. Et ils sont formidables parce qu'ils sont allés très vite pour comprendre. En fait, il suffisait de leur donner des clés, parce que la technique, ils l'ont, pour que justement, il y ait cette libération.
L'écrivain et photographe Hervé Guibert avait vu votre travail très tôt, hein, dans Le Monde en 1984. Il écrivait « Qui est le chorégraphe, sinon ce grand fada sacré que la société semble payer pour le rachat de la mort des gestes ?» Et c'est assez beau parce que cette expression « racheter la mort des gestes », vous en avez fait un spectacle en 2012. En quoi cette expression a pu vous marquer et a pu vous hanter, vous le grand fada de la danse contemporaine, Jean-Claude Galota ?
Non, parce que je dis souvent ça, c'est que on fait plein de gestes en fait et qui partent en fumée et du coup le chorégraphe regarde. Moi, je regarde beaucoup la vie des gens et je m'en inspire comme si j'étais un peu le réceptacle de toute cette vie pour essayer de la restituer artistiquement. C'est pour ça que j'essaye de dire, c'est important cette humanité. Alors, c'est difficile la danse contemporaine, parce que les gens pensent que c'est pas pour eux. Et c'est mon drame, parce que j'aimerais vraiment que les gens partagent. Et quand ils voient les spectacles, en fait, c'est facile pour eux, ils ont même envie de bouger. Je fais beaucoup d'ateliers aussi pour libérer ces gestes-là. Donc voilà, je trouvais qu'il avait très bien... exprimé.
À propos de la mort des gestes, il a su quelques années plus tard ce que ça voulait dire, puisqu'il avait réalisé un film sur sa maladie, avec les derniers gestes qu'il arrivait à faire, et chaque geste de plus était pour lui la preuve qu'il était encore vivant. Il faisait des gestes de gymnastique dans son film. Vous avez vu ce film, Jean-Claude Galota ?
Oui.
Il vous a intéressé ? Il vous a marqué ?
Oui. Oui, on le voit même jusque dans les toilettes. Enfin, il a... Mais c'était quelqu'un d'incroyable, parce que c'était un ange, il était très beau, et en même temps toujours fasciné par la mort, par la destruction. Chaque fois qu'on s'était rencontré...
Vous étiez rencontré plusieurs fois.
Oui, et c'était ça un peu son... Et c'est pour ça qu'il aimait la photo, aussi restituer ça. Il faut penser aussi qu'il a fait L'homme blessé avec Chéreau. Donc c'est tout cet univers interlope, difficile, où on est à la fois amoureux, mais en même temps c'est destructeur. Donc ça le hantait beaucoup.
Il y aurait pu y avoir un projet avec lui, vous en aviez parlé à l'époque ?
Oui, enfin on savait pas trop. Il était venu à Grenoble pour ça et... Et puis finalement, voilà, je suis passé à autre chose, et ça s'est pas fait.
Émilie.
Concernant votre nouvelle création, L'Étranger, c'est une création donc à partir du roman d'Albert Camus. Quelle place tient-il dans votre paysage littéraire, ce roman ?
Alors, ça a été une drôle d'aventure. Je rangeais les affaires de ma mère qui venait de mourir et je la vois sur une plage en Algérie. Tout à coup, je me rends compte que... Et on était allé voir justement L'Étranger de Visconti, parce que c'était pour eux encore un film néo-réaliste, même si c'est pas du tout ça. Ça m'avait frappé. Et du coup, même Visconti le disait, il disait que c'était un mauvais film, qu'il était raté. Moi, ça m'avait quand même un peu bouleversé, peut-être parce que j'étais très jeune. Et du coup, j'ai voulu lire le livre. Et donc, dans le livre, je comprenais pas tout, mais j'étais dans un drôle d'instinct, comme ça, dans cette lecture. Un livre sans chapitre, et avec ses personnages, l'absurde. Je pense qu'à un moment donné, ça m'a troublé. Je comprenais pas. Voilà.
Et quelles sont les premières idées chorégraphiques qui sont nées de ce roman, de la lecture de ce roman ?
Alors, du coup, je me suis dit, il faut que je relise ce roman. Donc, je l'ai lu. Et là, c'est drôle, je l'ai lu avec des lunettes de chorégraphe. C'est-à-dire que quand quelque chose brillait sur le livre, je disais, c'est pour moi.
Par exemple ? Qu'est-ce qui était pour vous ?
Par exemple, la mère. Quand il parle de sa mère au début du roman, donc je rends hommage à toutes les mères. Enfin, c'est une mère jeune que j'illustre en fait. Ensuite, il y a Marie, donc c'est l'amour. Donc là, tout à coup, il y a quelque chose. Je peux faire un pas de deux avec ça. Ensuite, il y a le vieil homme avec son chien. Et je me suis dit, tiens, je peux faire quelque chose avec l'homme et l'animal. Ensuite, il y a le meurtre. J'ai dit, je peux faire quelque chose entre le personnage qui devient l'arabe, qui devient le couteau et le pistolet. C'est-à-dire tout à coup quelque chose de symbiotique sur les personnages. Je continue ?
Non mais oui, je vous vois complètement. Hein. Oui. Ouais.
Non mais après, sur le fait qu'il soit en prison, ouais. Et donc le souvenir de sa mère ou de Marie, donc un nouveau duo, où l'homme finalement ne voit pas l'autre. C'est simplement comme un fantôme, donc nouveau duo, mais dans d'autres sphères. Et puis le final, pour dire la mort, plutôt le trio finalement, où l'homme rejoint la mère et Marie.
Est-ce que vous avez vu votre mère sur un plateau de danse? Est-ce que vous y avez pensé?
Oui, alors elle est dans Ivan Vafad, mais avec la voix. C'est-à-dire que je l'interviewe, elle s'appelle Leonita. Et donc du coup, c'est elle qui parle en italien et moi je traduis.
Et vous l'interviewez à quel sujet?
Parce qu'elle a connu Ivan Vafan.
Ce chorégraphe fictif turc.
Voilà, et qui avait justement découvert l'amour avec le grand pas de deux classique. Et donc du coup...
Elle improvise alors?
Non, je lui avais écrit le texte.
D'accord.
Et puis voilà, elle le lisait, c'était dans la cuisine, elle se demandait, il est vraiment fou mon fils, voilà.
Comme à tous nos invités depuis le début de la saison, on vous a demandé un son qui vous a marqué. Et voici ce que vous avez choisi, Jean-Claude Galota. Identification de ce son et la raison pour laquelle vous l'avez élu.
Alors, c'est le son pourquoi je suis rentré aux Beaux-Arts de Grenoble.
Avant de faire de la danse,
ouais. Avant, oui. C'était, donc, ce sont des gens qui dessinent. Et donc, j'ai fait ça longtemps, en fait, de croquer des personnages ou des plâtres. Hein, on dessinait souvent des plâtres. Parce que, finalement, à Grenoble, il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient envie de se mettre tout nus pour les étudiants. Et donc j'aimais ça, j'aimais beaucoup ce moment un peu silencieux où les crayons. Et ce qui est étonnant, c'est que le professeur de modèle vivant, un jour nous dit, écoutez, arrêtez d'être dans cet atelier, allez dans le monde, allez voir la vie, allez dessiner des gens dans la nature. Donc j'ai pris mon carton, un peu triste en fait, parce que moi j'aimais bien ce moment-là. Mais justement, à un moment donné, je dessine et puis je vois Conservatoire de la danse. Et là, je me dis, oh, ça doit bouger, là. Et donc, je rentre, et là, tout a commencé pour moi. Donc, voilà, c'est un son qui, à la fois, me plaisait, et qui va, presque à contrario, définir ma vie.
Le rendez-vous. Rendez-vous. La chronique.
Sonia Curmbretto et Jean-Claude Galota, on vous retrouve dans quelques instants, mais tout de suite, la parole est à Xavier Delaporte pour sa chronique Place de la Toile, en partenariat avec le site d'information Rue 89. C'est à vous, Xavier.
Il y a quelques jours de cela, ma fille de 8 ans m'a appelé pour me montrer ce qu'elle dessinait. À ma grande surprise, ce qu'elle m'a montré était une scène de jeu vidéo. Quelque chose de très simple, un vaisseau spatial devant abattre d'autres vaisseaux spatiaux descendant sur la page. Une scène à la Space Invaders pour ceux qui se souviennent de ce très vieux jeu vidéo. Et ma fille de m'expliquer la scène. Tu vois, lui, il doit tirer sur les vaisseaux avant qu'ils ne touchent le sol. En lui tirant dessus. En gros, à partir d'un dessin figé, elle jouait, elle animait la page. Et ceci m'a rappelé un phénomène dont parlait une socio-anthropologue, Elisabeth Schneider, ayant travaillé sur les pratiques scripturales des adolescents. Elle aussi avait remarqué qu'il arrivait que les adolescents, quand ils n'avaient pas de machine à disposition, jouent aux jeux vidéo sur papier. Alors, comment interpréter ça? D'abord, c'est ce qu'Elisabeth Schneider a remarqué pour d'autres pratiques que le jeu. Il y a, chez les adolescents, des effets de continuité constants entre l'écrit, l'écran et le papier, plus constants qu'on ne le croit, et pas simplement parce que l'école les impose, ça touche aux écrits intimes, mais jusqu'au jeu aussi. Ça dit aussi quelque chose de l'imaginaire enfantin. La scène de jeu vidéo fait partie de l'imaginaire enfantin, comme une scène de film. On a été beaucoup petits à, par exemple, dessiner des scènes de Bambi ou d'autres scènes ludiques comme celle du sport. J'ai personnellement passé beaucoup de temps petit à dessiner des scènes sportives, des compositions d'équipes, ce qui est aussi bizarre que pour un jeu vidéo. Mais on est dans une sorte de dessin fantasme qui, me semble-t-il, a toujours existé. Enfin, ça dit quelque chose de la capacité ludique des enfants qui consiste à animer l'inanimé. Car de ce dessin approximatif, l'enfant fait une scène animée dans laquelle il se passe quelque chose, les petits traits devenant sous les yeux de l'enfant des vaisseaux qui traversent la page, voire explosent, ce que un trait de crayon peut signifier le cas échéant. Et on trouve là une alliance qui est finalement assez belle entre ces jeux vidéo hyper sophistiqués qui coûtent des fortunes et dont on a l'habitude de dire qu'ils tuent l'imagination des enfants et cette capacité incroyable capacité aussi fascinante qu'ils ont à animer l'inanimé, à fabriquer des scènes, à rêver sur des représentations schématiques et minimales, bref, à faire ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire jouer.
Merci Xavier, on se retrouve Xavier, eh bien jeudi prochain.
19h20, rendez-vous. Le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Plateau dramaturge avec vous, Sonia Chiambretto, essayiste, écrivain, un parcours qui commence au milieu des années 2000. Vous signez État civil aux éditions Nous, ou Nous, Nous, hein.
Nous.
Dixième texte, un court récit descriptif de ce qui peut se passer de chaque côté d'un guichet administratif dans un bureau de proximité à Marseille. Il est question de renouvellement de passeport, de demande d'attestation de sortie du territoire, d'inscription en tout genre. Un endroit où 123 personnes, juste désignées par un numéro, parfois par un prénom, défilent devant le personnage agent public. La plupart des situations laissent entrevoir une incompréhension de part et d'autre du guichet avec une impuissance de chacun à répondre aux requêtes de l'autre. Vous avez travaillé in situ avec des paroles rapportées pour un effet documentaire. Ce n'est pas du tout la première fois que vous travaillez comme cela. D'ailleurs, la première fois, c'était à quelle occasion ?
La première fois, c'est pour mon livre Shto, interdit aux moins de 15 ans. C'est une rencontre avec une jeune fille tchétchène. On s'est rencontrés pendant un certain temps. Elle venait d'arriver en France. Elle ne parlait pas français. Elle parlait russe. Moi, je ne parlais pas vraiment russe. Mais on a communiqué comme ça. Quand je dis comme ça, d'ailleurs, comme ça revient
comme ça,
toujours dans le texte. Ouais. Parce que, au fond, j'ai écrit ce texte avec une dizaine de mots. Et d'ailleurs, quand vous ouvrez le texte, vous regarderez, il y a 10 mots qui reviennent. Et avec ces 10 mots, j'ai retracé un parcours. J'ai essayé de retracer un parcours. Un parcours qui, finalement, est son parcours, mais peut-être aussi qui croise le mien. Donc, c'est une relation. Et je le dis tout de suite, je ne me dis pas, oh tiens, je vais aller travailler et écrire sur la Tchétchénie. Non, je n'y pensais même pas. Par contre, quand je l'ai rencontré, j'ai eu un choc. C'est vraiment une rencontre. Et dans un chuchotement de sa part, puisque je lui ai demandé d'où elle venait, elle a chuchoté pour dire qu'elle venait de Grozny. Et c'est ce chuchotement qui a réveillé chez moi ma propre histoire, peut-être, mon histoire familiale et l'histoire de beaucoup de monde. Et c'est ce que j'ai tenté d'écrire dans Shto.
Et ici, donc, pour État civil ?
Pour État civil, ça part d'une expérience. J'ai été en résidence, c'était pendant Marseille, quand elle était capitale culturelle. Et il y a eu un programme qui s'appelait Atelier d'artistes euro-méditerranéens, qui était dirigé par Sandrina Martins, qui connaissait bien mon travail, qui connaît toujours bien mon travail, et qui donc m'avait proposé d'aller en résidence dans ces lieux, parce que l'idée c'était de mettre en contact des artistes et des institutions privées ou publiques pour activer la question du mécénat. Et donc voilà, hop, je pars en résidence, on va dire, dans ces bureaux de proximité. Donc il y a 23 bureaux de proximité à Marseille, et c'est des sortes, ils sont très fiers à Marseille, la municipalité est très fière d'avoir installé ces bureaux, parce que c'est une manière un petit peu de soulager l'état civil et de donner du bien-être aux gens, aux administrés qui viennent chercher leurs papiers. Bon, moi, j'ai très vite vu que c'était plutôt des avant-postes. C'est un peu des endroits de crise. Et pour cause, c'est très difficile. Donc là, j'ai passé une semaine dans chacun des bureaux. Et j'étais très heureuse parce que je suis passée de l'autre côté. Et toujours, quand je vais chercher ma carte d'identité ou quoi, j'ai toujours une culpabilité. Quand je rentre, je suis toujours inquiète de ce qui va se passer, du papier qui manque, de la question désagréable. Et là, de passer de l'autre côté et de voir comment ça fonctionnait de l'autre côté du guichet et d'être face aux gens qui venaient chercher leurs papiers, mais ça a complètement ça a modifié ma relation à ces bureaux. Qu'est-ce que c'est aller chercher un papier ? Alors voilà, c'est une superbe expérience, mais qui tout simplement m'a montré à quel point c'est vraiment un endroit de crispation, de dureté, de violence, et à la fois ce sont des gens qui bricolent. C'est-à-dire que c'est une majorité de femmes qui sont derrière les guichets. Elles m'ont très très bien accueillie, donc il n'y avait aucun souci, tout était très naturel. Mais au fond, voilà, elles sont elles-mêmes parfois en difficulté. Et tout devient... c'est une vraie le parcours devient une fiction juridique. Quoi.
Jean-Claude Galota, ça vous inspire quoi ?
Moi, ça me rappelle que des trucs durs, parce que mes parents sont restés italiens. Moi, j'ai été fait français assez tôt, après la naissance. Et quand c'était sous l'ère Sarkozy, alors je ne sais pas si ça marche encore, eh bien, pour avoir ma carte d'identité, ça a été la croix à la bannière. C'était incroyable. C'est comme si les idées du Front National avaient pénétré l'agence française. Et j'ai fait la queue, j'ai demandé. Alors, ce qui était fou, c'est que la personne qui était derrière me disait « Mais vous êtes français, vous avez vu ça ?» Mais maintenant, c'est plus comme ça, il faut envoyer des textes. Mais ça a été incroyable. Et ils m'ont dit « Mais vous êtes connu, vous pourriez... » Non, non, je dis « Je fais la queue, comme tout le monde, et je vais voir jusqu'où je peux aller. » Et quand je le raconte à mes amis français, ils sont horrifiés par ça, parce que c'est une chose qu'on ne connaît pas.
Sonia Camaretto.
Oui, j'ai envie de dire, vous avez vu, il y a dans ce texte, il y a le fantôme de Walter Benjamin.
Exactement, qui arrive à un moment donné bien
qui
précis.
Qui arrive bien, oui,
qui
voilà.
Qui a un numéro aussi.
Et qui est un numéro, ce numéro-là, c'est son numéro, puisque dans Sens Unique, son livre, ça existe, il y a ce numéro-là, et numéro c'est un numéro qui fait référence à des instants de mémoire
123.
Dans son histoire, numéro 123. Donc j'ai repris ce numéro. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à Marseille, moi, je me rends compte que finalement, dans les années 40, il y a eu des listes interminables d'intellectuels juifs allemands et des gens qui n'étaient pas des intellectuels non plus, pourquoi, et qui se sont retrouvés dans des situations incroyables pour obtenir un papier, quoi. Un
oui, parce que Walter Benjamin qui à Marseille, ce n'est pas une fiction.
Et non. Et en fait, oui, bien sûr. Donc Walter Benjamin est venu plusieurs fois à Marseille. Donc quand il s'est retrouvé exilé, donc il a été à Paris. Puis ensuite, il a débarqué à Marseille. Alors, je ne peux pas m'étaler là-dessus parce que je pourrais dire des bêtises. Mais ce que je sais, c'est qu'en 40, en tous les cas, après avoir passé une semaine dans le camp des Milles, qui est pas loin de Marseille, qui est un endroit, qui a été un endroit de transit, ou en 40 et quelques, en 42 ou en 41, il y a quand même des gens qui ont été déportés, beaucoup d'enfants et tout, de ce camp-là, à Aix. Et Walter Benjamin a passé, il a passé une semaine dans ce camp. Et pour moi, pendant l'écriture du texte, et quand j'allais dans mes bureaux de proximité, quelqu'un m'a donné ce livre, Hachiche à Marseille, de Walter Benjamin. Et c'était vraiment une lecture très forte parce que l'hôtel où il était, ça commence comme ça, il est dans son hôtel, il prend du hashish, hop, il va se balader, puis il voit les choses soit exagérées, soit rétrécies. Puis donc il donne une vision de sa balade dans la ville. Bon, parfois il dit que quand même les Marseillais sont vulgaires et tout. Bon, voilà, on lui pardonne. Et puis voilà, il fait sa balade comme ça. Et à ce moment-là, il attend des documents. Il attend des documents et il écrit ce récit qui est publié dans les Cahiers du Sud. Et voilà, donc ça. Et puis ensuite, il revient en 40 et il n'obtient pas ses papiers. Et il part, tout le monde sait, et il se suicide, comme d'autres se sont suicidés dans le camp des Milles, d'ailleurs. Et moi, c'était étrange, parce que je me disais quand même, en réalité, le temps, il n'est pas si... c'est très près, tout ça. C'est une mémoire qui est finalement... Et dans les bureaux de proximité, moi, je me disais, c'est fou, aujourd'hui... Un document, ça peut sauver comme ça peut tuer, quoi. C'est un truc, c'est quand même fou, c'est ridicule, c'est un petit papier. Enfin, voilà. Et derrière, il y a, et je crois que c'est partout, les personnes qui sont derrière les guichets, qui sont vraiment c'est majoritairement des femmes à Marseille, mais qui sont très gentilles. Enfin, vraiment. Et puis c'est le bon sens. Ça bricole tout le temps. Et alors, c'est maladroit. Puis surtout, elles sont très peu formées. Donc, puis parfois, elles sont un peu, elles se disent, bon, tiens, lui, il m'énerve un peu, on va faire un petit peu attendre. Voilà, puis c'est kafkaïen comme. Mais c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible de voir que des gens, toute leur vie est rythmée autour d'un document. C'est ça, hein, c'est qu'une personne, pendant une naturalisation, ça peut être 3 ans, 4 ans. C'est aller dans un bureau tous les 2 jours, puis repartir, faire la queue. Enfin, c'est fou, et ça a toujours été. Et je pense que c'est à cet endroit-là aussi. Toutes les questions, peut-être, de racisme ou de... Enfin, c'est compliqué. Moi, je peux vous raconter quelque chose.
Allez-y, Sonia Clamato, bien sûr.
J'arrête de parler.
Tout à l'heure, elle nous a dit, je suis complètement affolée. Depuis tout à l'heure, elle n'arrête pas. Alors, allez-y.
Non, mais ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, j'étais dans un bureau et... Et en fait, les bureaux sont disposés c'est les arrondissements, donc ouais. Voilà, sur la commune. Les dames qui étaient, elles étaient un peu malheureuses que je parte. Ça y est, j'avais fini ma semaine, c'était un peu mon stage. Et puis, c'est comme un peu le stage 4e en entreprise. Et ensuite, elles m'ont dit, et j'allais à la Belle de Mai. Donc voilà. Et là. Elles m'ont dit, oh, tu vas à la Belle de Mai, mais c'est terrible. La Belle de Mai, c'est vraiment très, très dur. En fait, c'est des Comoriens. Comoriens. Hein. Et les papiers sont gras. Ils emmènent des papiers sales, tout gras, avec l'huile sur le document. Il n'y a pas de vitres. Nous, on demande des vitres, quand même. Puis c'était comme ça, c'était vraiment... Moi, je suis rentrée, oh là là, je vais chez les Comoriens. Et comment cette chose prend... Bon, évidemment, j'arrive à la Belle de Mai et je me retrouve dans un bureau, mais d'une gaieté... Enfin, les gens n'étaient pas forcément gays, mais il y avait... C'était pas du tout... Bon, d'abord, les gens n'étaient pas sales, évidemment. Bon, ça, il fallait s'en douter. Mais je me disais, voilà, c'est là. À cet endroit-là, de passage, d'ailleurs, ça coince et ça peut définir des tas de choses par la suite. Et le racisme et toutes ces choses-là, c'est dans ces petits endroits quand on demande « Mais qui est votre mère ?» Non, non, mais il faut nous donner la preuve que c'est bien votre mère. Enfin, voilà.
Sonia Chiambretto, on ne doit pas vous arrêter parce que vous avez choisi de nous lire un passage.
Un tout petit, un court passage.
Autour des cheveux.
J'ai même mis
un post-it pour bien vous rappeler.
Pour bien me rappeler.
C'est à vous.
Numéro 97. Vos cheveux sortent du cadre. C'est la deuxième fois que vous vous présentez avec cette photo. Ce n'est pas parce que j'ai changé de guichet que je ne suis plus la même personne. Je vous reconnais. Je vous l'ai déjà dit, vous n'êtes pas entièrement dans la photo. Elle ne passera pas. Votre visage et vos cheveux doivent absolument rentrer dans le cadre. Attachez vos cheveux si vous souhaitez réellement votre passeport.
Ça dit pas mal de choses. Émilie Chaudet.
Pour en rester justement sur le texte, vous avez une écriture très visuelle avec des expérimentations typographiques, des tirets pour dire l'insistance ou l'exaspération, des smileys aussi, ces petits visages naïfs, heureux ou tristes. Et vous n'utilisez ce moyen-là que pour signifier les intentions ou les états d'esprit des personnages. Mais il y a même un moment du livre, et c'est là où ça rejoint ce que vous venez de dire, un moment du livre où il y a un smiley tout noir, lorsque l'agent public explique à un administré noir qu'il va falloir faire éclaircir sa photo d'identité. Est-ce que ça, c'est une manière d'intervenir le moins possible dans votre texte, dans votre récit.
Exactement. Alors là, je suis même contente.
De cette lecture et interprétation.
De cette lecture et interprétation, elle est juste. Par exemple, là, vous voyez, on parle de didascalie hein, en haut, mais en fait, ce ne sont pas des didascalies, c'est une manière d'échapper à la narration, à ma présence, un peu lourde comme ça, enfin un peu lourde, peut-être, je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est tous les moyens de ne pas développer. Je ne veux pas développer. Comment arriver au mot précis, à la chose, au silence, et donc voilà, et les smileys, etc. Et là, bon, j'en ai enlevé parce que je me suis dit bon. En fait, quand on regarde le livre, il est petit.
Enfin,
il est bref. J'aurais pu faire un énorme livre, je peux vous assurer, j'avais de quoi faire. Mais en réalité, chaque fois, je débarrasse pour arriver à quelque chose qui me semble qui est important pour moi. C'est ce que je veux. Peut-être ce que je voudrais dire sans donner d'explication, sans donner un point de vue qui... Et les smileys et tout, en fait, moi je travaille sur mon ordinateur et tout ce que Word, me permet, quoi. C'est vrai que quand je suis dans une impasse, parfois, hop, une flèche, et voilà.
Et c'est parti. Va. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette écriture intéresse autant les chorégraphes et les metteurs en scène, c'est-à-dire ceux qui travaillent le visuel sur le plateau. Comme à tous nos invités, on vous a aussi demandé un son, Sonia Cambretto, et voici ce que vous avez choisi.
On me pose souvent cette question. Quand tu rêves en français ou en anglais ? Moi, je mélange les deux langues. Je suis un schizolingue. Et c'est un texte que je lis très souvent pour répondre à la question qu'on me pose tout le temps, « Let me see, let me think ». Non, je ne sens pas qu'il y a un espace entre les deux langues qui parlent en moi. « Yes, perhaps, just a little space ». Au contraire, « more or less, if you wish ». Pour moi, mes deux langues semblent bien plutôt se chevaucher « and even sleep together ».
It's up to you, Sonia Cambretto. Interprétation de ce son, pour quelle raison vous l'avez choisi et qu'est-ce qu'on entend ?
Donc c'est Raymond Federman, qui est écrivain, qui est mort il y a 2-3 ans, et qui est, malheureusement a été, enfin on l'a reconnu très tardivement en France, il est français, il était à Montrouge quand il y a eu les rafles du Veldiv, donc sa famille a été emmenée et est tuée, enfin en tout cas il ne les a plus jamais retrouvés, il avait 8 ans, il a été poussé dans un débarras.
C'est ce qu'il raconte, systématiquement dans ses textes.
Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il raconte la même chose. Et au fond, on ne sait pas, finalement, est-ce que c'est de la fiction ou... Voilà. Mais en tout cas, tout son rapport à la langue, et à la langue d'accueil, et à la langue qu'il a fait dégager, je trouve vraiment... Enfin, pour moi, c'est vraiment porteur dans mon propre travail. Et puis, c'est quelqu'un que j'ai rencontré... avant d'écrire, et qui est devenu un ami, un grand ami, mais après, en vérité, il est ami avec tout le monde. Alors bon, c'est vrai, il a des amis partout, mais c'était vraiment une... Enfin, il m'a dit des choses importantes. Un élan, ouais.
En fait, on pourrait couper le son et puis mettre la musique du sacre.
C'est une superbe expérience.
Merci à nos invités. Jean-Claude Gallotta, votre hommage au Centre National de Danse Contemporaine d'Angers, c'est jusqu'au 15 mai. Et puis l'étranger, ce sera à la Maison de la Culture de Grenoble du 9 au 20 juin. Sonia Cambretto, État civil, apparu aux éditions Nous. Et je signale qu'il y aura une lecture de vos pièces. Police, c'était pour un spectacle de Rachidou Ramdan. Et Superstructure, ce sera à Théâtre Ouvert à Paris le 17 juin. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain ?
Fin du 19e siècle, un simple jardinier de Boulogne, meunier, invente un nouveau matériau, le ciment armé ou béton.
Demain, une émission Monstres et béton avec l'architecte Rudy Ricciotti et le réalisateur Antoine Barraud. La désannonce, Elsa.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Émilie Chaudet, Adrien Nazelli et Elsa Béranger. Journal de la culture Zoé Sfès, chronique Xavier Delaporte, à la prise de son Clément Berman et Bruno Gagnère-Fontanille et à la réalisation Thomas Beau.
Il est 19h55, vous êtes sur France Culture. Mais c'est bien. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française. Alors bonne soirée à tous et à demain.